Bonsoir, comment allez-vous? C'est aujourd'hui l'épiphanie. Pour bon nombre d'orthodoxes, c'est le jour où ils reçoivent leurs cadeaux. C'est bien pour le Père Noël, ça étale un peu les livraisons. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est le jour de la fameuse galette des rois, archi-chère et archi-bonne. Au nord de la Loire, pâte feuilletée et frangipane, au sud, une brioche avec des fruits confits. Quoi qu'il en soit, il faut en préférer une de bonne qualité et petite. Je parle toujours de la galette. Petite pour être sûre que tout soit servi. Quel dommage quand il reste une part dans le plat et que c'est justement là qu'est la fève. Et puis c'est un principe. Peu est bon. Puisque je suis dans les principes, êtes-vous pour ou contre tricher en servant les parts pour qu'un tel ait la fève? Contre, car c'est de la triche. Et que de ne pas avoir la fève, finalement, eh bien ça apprend la vie aux enfants. Pour, car c'est dommage de priver un petit d'une vraie joie, surtout si on pressent qu'il s'est déjà pris plus que sa dose de déception. Bon, c'est quoi la réponse? C'est ça dépend. Donc, pas de principe, c'est un principe.
Bonjour, c'est Jean de Pau. J'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi les rois portent une couronne. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi les rois et reines portent-ils des couronnes. Merci, au revoir.
Jean et Louise, quel beau prénom. Mathieu Davignat, vous êtes historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, mais vous connaissez tous les rois, toutes les reines et toutes les couronnes.
Oui, pas complètement, mais j'essaie de connaître en tout cas les rois et les reines de l'époque de Versailles.
En fait, ce qui les intrigue, c'est pourquoi une couronne?
Pourquoi une couronne? En fait, ils ont des couronnes, mais qui sont jamais sur leur tête. La couronne, ils la mettent uniquement à une occasion bien précise ou à quelques occasions précises. Et à l'époque des rois et reines de Versailles, c'est uniquement pour le sacre du roi.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est une cérémonie où le roi est sacré. C'est-à-dire que le roi en France représentait Dieu sur terre à l'époque. On considérait que c'était le lieutenant, c'est-à-dire tenant lieu de Dieu sur terre.
Ah oui, il n'était pas élu comme maintenant le président de la République.
Non, c'est un roi qui ne tient son pouvoir que de Dieu. Et donc, il estime qu'il ne doit rendre des comptes qu'à Dieu. Et pour véritablement marquer ce phénomène, il était sacré à Reims, dans la cathédrale de Reims, où là, il était en grand costume, avec le manteau fleurdelisé, et il avait ce qu'on appelait des insignes royaux. Alors, le terme scientifique, c'est des régalias. C'est-à-dire qu'il a l'épée dite de Charlemagne. Alors, elle est, c'est pas du tout l'épée de Charlemagne, mais on disait que c'était l'épée de Charlemagne. Il avait la main de justice aussi qu'on disait de Charlemagne, une couronne qui avait été fabriquée au Moyen-Âge. Et donc, il arrivait, il se présentait à la cathédrale. Il était oint avec la sainte huile sur la tête. Et il n'y a que ce jour-là où il avait sa couronne. Alors après, il y a des tableaux, évidemment, où on a ce tableau de Louis XIV qui est le plus connu. Où on le voit assez âgé avec son manteau fleurdelisé, se tenant avec des très belles jambes de danseur en quatrième de danse, qui est le portrait de Hyacinthe Rigaud du début du XVIIIe siècle. Où là, effectivement, c'est un portrait fictif qui est un portrait politique pour représenter le roi dans sa splendeur. Mais la couronne, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis les Grecs, les Romains, où c'était le symbole d'une victoire. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques, par exemple, on remettait de l'huile ou des petits cadeaux et on ceignait la tête des vainqueurs d'une couronne de laurier. César avait une couronne de laurier, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui s'est propagé au cours des siècles et c'est vraiment au Moyen-Âge français que les rois ont commencé à porter des couronnes qui étaient soit ouvertes, qui étaient donc le signe des rois, soit fermées, c'est-à-dire où ça formait une sorte de cône en dessous, et qui étaient plutôt les empereurs. Et puis les Français vont adopter, François Ier au XVIe siècle va adopter la couronne fermée pour marquer qu'il avait autant de pouvoir que Charles Quint. Donc les Français vont avoir une couronne qui n'est pas une couronne forcément une couronne, ce qu'on appelle régalienne, mais une couronne d'empereur, parce qu'il s'estimait aussi puissant que les empereurs, par exemple des Habsbourg, à l'époque de Louis XIV et des rois suivants.
Donc cette couronne porte beaucoup de symboles. Et la reine alors?
Alors la reine a également une couronne qu'elle met le jour aussi du sacre et des choses comme ça de son mari. Mais ce sont des couronnes qui restent dans les coffres, c'est les trésors de la couronne qui sont, et qu'on ressort, et qu'on ressort aussi au moment des funérailles, c'est-à-dire qu'on peut poser sur le cercueil, etc., et qui reste et qui est transmise après, qui est trésor, pas national, mais trésor royal.
On en a encore des couronnes?
Alors on en a quelques-unes, notamment la couronne de Louis XV, mais qui sont soit des reconstitutions, mais sinon il reste quelques couronnes. Elles sont visibles au Louvre notamment, au musée du Louvre, dans le département des objets d'art.
Voilà, nous avons des couronnes aujourd'hui en carton, mais elles sont bien dorées. L'historien Mathieu Davigna a écrit entre autres le Versailles de Louis XIV et s'est édité chez Perrin. Nous saurons ce soir dans nos petits bateaux si le Yeti existe. Qui a inventé Philae, le robot? Et depuis quand on croit aux fantômes?
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi la veine est bleue et le sang est rouge. Merci.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi nos veines sont bleues alors que notre sang est rouge.
Alors pardon pour tous les autres qui ont posé cette question. Jean-Noël Fabiani, chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou. Cette histoire de sang qui est tantôt bleu, tantôt rouge.
Alors évidemment, nos petits amis ont vu déjà les dessins qui représentent les veines et les artères, qu'on a tendance à représenter naturellement les veines en bleu et les artères en rouge. Ça n'est pas tout à fait exact dans la réalité. Les veines sont un peu bleues, c'est vrai, et les artères, elles sont franchement roses, elles sont pas rouges du tout. Et en fait, le sang qui est à l'intérieur, lui, change de couleur. Mais ça n'est pas toujours le vaisseau qui change de couleur. Alors c'est vrai que les veines ont un sang qui est plutôt un peu bleu, disons plutôt noir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est du sang qui a perdu son oxygène. Et comme il a perdu son oxygène, il a tendance à aller plutôt vers le rouge foncé noir. Tandis que le sang qui se trouve dans les artères, lui, vient de récupérer de l'oxygène dans les poumons, et lui, il est rouge vermillon. Et il va donner cet oxygène aux muscles qui en ont besoin, et donc il va perdre son oxygène, récupérer du gaz carbonique, et il va devenir plutôt noir.
Donc les veines chargées de sang foncé usé, c'est ce qui va se faire recycler dans le cœur?
Dans le poumon. Alors, d'un côté se trouve le cœur gauche, c'est-à-dire le ventricule gauche, où il y a le sang rouge, qui éjecte vers les organes, vers le cerveau, vers le foie, vers le rein. Et une fois que le sang est passé dans ces organes et dans les muscles, il revient par l'intermédiaire des capillaires dans le réseau veineux, qui va, lui, dans le cœur droit, où il est noir. Du cœur droit, il passe dans le poumon, où il devient à nouveau du sang rouge, grâce à l'oxygène que l'on respire. Il a fallu quand même plusieurs millénaires pour le comprendre.
Mais c'est pas évident.
Mais c'est pas évident du tout.
Quel circuit?
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. I kind of know this other guy, but he's rather old enough to be my father. So he's not the one for me. 'Cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. So is it such a problem? Gives a damn about the ages we are. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he's told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told, I know that I'm gonna survive the December cold. For somebody to retrieve my long lost soul. For somebody to retrieve my long lost soul.
Et voilà, c'était Liane Lahavas, Age.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le robot au filet et il a atterri, enfin atterri, je ne sais pas si c'est le bon terme, puisque ce n'était pas la Terre mais la comète Tchoury. Mais à cause de ses panneaux solaires qui n'étaient pas aussi bien orientés qu'on l'espérait, il n'a pas eu assez d'énergie pour communiquer autant qu'on l'espérait justement. Et il est muet depuis le 9 juillet 2015.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 9 ans et je voudrais savoir qui a inventé Philae. Merci de me répondre, au revoir.
Ben bravo déjà de connaître Philae, Thomas. François Forget, directeur de recherche au CNRS. On va peut-être commencer par expliquer qui est Philae.
Oui, Philae, c'était le petit atterrisseur, un petit module qui était initialement à bord d'une sonde spatiale qu'on appelait Rosetta, qui était beaucoup plus grosse, et qui a fait un immense voyage autour du système solaire pour rejoindre et accompagner une comète, la comète Churyumov-Gerasimenko, qui, comme ça, pendant 2014, 2015 et 2016, accompagnait la comète. Et puis, en 2015, en novembre, le petit module Philae s'est détaché de sa maman, entre guillemets,
grosse Rosetta.
Rosetta, pour aller essayer de se poser sur la comète. Elle a réussi, elle a un petit peu bancale, mais elle a réussi. Et c'est une aventure extraordinaire, après des milliards de kilomètres d'arriver à se poser quasiment à l'endroit prévu. Donc c'était une grande aventure et moi je comprends que Thomas se soit intéressé à Philae. Maintenant, qui a inventé Philae ? Eh bien ça c'est une très bonne question parce que ça va me permettre de raconter comment on développe comme ça, on construit un engin comme Philae ou même la grosse sonde Rosetta. Eh bien en fait, c'est difficile de dire que quelqu'un a inventé Philae. Parce que comment ça se passe ? On a tout le temps des chercheurs qui se réfléchissent à ce que l'on pourrait faire pour mieux comprendre le système solaire, l'univers, répondre aux questions, par exemple, d'où venons-nous? Y a-t-il d'autres êtres vivants sur d'autres planètes? Toutes ces immenses questions très importantes, on se dit comment y répondre. Alors, des chercheurs ont dit, ah, il faudrait explorer les comètes. Alors, on l'avait déjà fait, par exemple, dans les années 80, avec une sonde européenne qui s'appelait Giotto. Et après Giotto, les chercheurs se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah, il faudrait aller se poser sur une comète. Donc, ils sont réunis, ils ont écrit des espèces de recommandations en disant, ce serait formidable de se poser sur une comète. Les agences spatiales, on a en Europe un regroupement de tous les pays qui se mettent ensemble et qui mettent leurs moyens ensemble pour faire ce qu'on appelle une agence spatiale. Et ils se disent, ah, vous chercheurs, vous voulez aller sur une comète. Très bonne idée, on va voir comment on peut faire. Alors à ce moment-là, des ingénieurs vont essayer de calculer et de regarder comment ça peut être fait. Ensuite, l'agence spatiale va essayer avec ses ingénieurs de construire cela, mais pour cela, elle va s'appuyer non pas sur un inventeur, mais elle va demander à des entreprises industriel. Alors c'est un gros mot industriel, mais ça veut dire aussi que en France, en Europe, on a des super ingénieurs qui travaillent dans des entreprises privées, qui vont travailler sous la direction des agences spatiales pour développer Philae, par exemple. Alors en pratique, Philae, finalement a été fait beaucoup avec l'agence spatiale française et l'agence spatiale allemande. Si vous voulez tout savoir, l'agence spatiale allemande elle s'appelle le DLR, l'agence spatiale française s'appelle le CNES. Tout ça sous la direction de certains de mes collègues chercheurs. Par exemple, mon collègue Jean-Pierre Biebring a été vraiment moteur dans le design, dans la manière dont on a conçu Philae. Et donc, au total, on a envie de dire qu'il y a eu des milliers d'inventeurs de Philae. Chacun a apporté sa pierre.
Mais pas que des Européens, il y a des Américains, il y a des Chinois, il y a des Russes ou pas?
Alors pour l'exploration spatiale en général, il y a tous les pays, chacun construit leur sonde spatiale. La plupart du temps, il y a des collaborations, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait quelques Américains qui ont participé à l'aventure de Rosetta et de Philae. Mais pour Rosetta et Philae, c'est essentiellement un projet européen et avec une forte participation française, donc on peut être fier.
Nous sommes fiers. Le planétologue, directeur de recherche au CNRS François Forget, a également écrit La planète Mars, histoire d'un autre monde, édité chez Belin.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 6 ans et demi et j'aimerais bien savoir si le Yeti des montagnes existe. Merci, au revoir.
Mathieu demande si le Yeti des montagnes existe, Benoît Grison. Si tu as lu Tintin, tu as peut-être vu le Yeti des montagnes. Tu peux lire maintenant du Yeti au calmar géant. C'est le titre de votre livre, Benoît Grison, qui est édité chez Delachaux et Niestlé.
Bon Mathieu, le Yeti existe, mais il est deux personnages, entre guillemets. À l'est, au Tibet, c'est clairement un ours qu'on appelle l'ours bleu, qui est un très grand ours, qui est connu depuis longtemps, mais qui est très rare, qui effraie beaucoup les gens parce qu'il agresse le bétail. Et il est considéré comme une sorte de monstre par les Tibétains, mais il est connu depuis très longtemps. Alors ça, c'est une des deux origines du mythe du Yéti.
L'ours bleu.
L'ours bleu.
Et il se tient debout ?
Ah, il peut se tenir debout, pas très longtemps, mais il est redoutable, il est très grand, avec des mœurs bizarres. Par exemple, il déterre les marmottes dont il se nourrit dans les terriers, il agresse les vaches. Donc, les paysans tibétains étaient terrorisés par lui. Je dis « étaient » parce qu'il se raréfie. Et puis, l'autre origine du mythe du Yéti, c'est un être qui est décrit dans les forêts de haute montagne du Népal, du Bhoutan, comme une sorte de grand orang-outan. Et c'est possible que ça ait été un orang-outan parce qu'il en a existé il y a environ 100 000 ans sur le continent asiatique dans ces régions-là. Mais seulement les forêts du Népal, les forêts du Bhoutan, les forêts du Sikkim disparaissent, se retrouvent à diminuer comme peau de chagrin. Donc s'il a existé ce gros orang-outan qui a pu inspirer le Yéti au Népal, il a disparu.
Donc éventuellement l'ours bleu, il peut en rester quelques-uns.
Oui, mais alors ils sont de plus en plus en difficulté parce que le milieu dans lequel ils évoluent diminue, les forêts et les grandes plaines commencent à être complètement transformées et du coup ils en sont réduits à attaquer le bétail parce qu'ils ne trouvent plus suffisamment de proies forestières ou dans les plaines.
Alors qu'à l'origine le bétail n'est pas la nourriture qui leur convient.
Non, 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 mais ils s'adaptent comme ça et ils terrorisent encore plus les Tibétains du coup.
Benoît Grison est docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences. À propos de Yéti, ce soir dans État d'esprit à 22h, Mathieu Ricard nous parlera, entre autres, de son exposition de photos du Tibet et de l'Himalaya.
Je repense à cette fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle. Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle. Et c'est moi le corbeau qui t'annonce cette triste nouvelle. Elle ne t'aime pas. Ciao.
La femme et la chanson, elle ne t'aime pas. C'est pas une formidable nouvelle. Si vous voulez poser une question au petit bateau, eh bien vous composez le numéro de notre répondeur qui aime tout le monde. C'est le 01 56 40 43 57. Non, il aime pas tout le monde parce qu'il est idiot. Il aime tout le monde parce qu'il est intelligent.
Bonjour, je m'appelle Gabriel et je voudrais savoir si les fantômes et les esprits existent. Merci.
Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 10 ans. Ma question, c'est est-ce que les esprits existent ? Voilà, merci.
Esprit, es-tu là ? C'est le titre de votre livre édité à la librairie Vuibert, Viviane Perret. Vous pouvez donc, j'imagine, répondre à Gabriel et Elliot.
J'aurais bien aimé répondre à Gabriel et Elliot par expérience, parce que j'ai passé récemment une nuit dans une maison supposée hantée, mais aucun fantôme n'est venu chatouiller mes pieds sous la couette. En revanche, si moi j'ai fait chou blanc, d'autres auteurs, depuis l'Antiquité, ont rapporté des phénomènes de hantise, de fantômes et d'esprits. Alors il y a des cas très célèbres, on va commencer par Pline le Jeune, qui était gouverneur romain de Bithynie au 1er siècle et qui rapporta l'aventure survenue au philosophe grec Athénodore, qui était propriétaire d'une maison hantée. Alors le spectre qui apparaissait à Athénodore était assez bruyant, il était sous la forme d'un vieux vieillard avec des vêtements haillons, puis alors des grosses chaînes, et au bout d'un moment le philosophe en a eu assez, il a répondu aux demandes de ce fantôme, il a creusé dans le jardin, il a trouvé les os de l'infortuné et il lui a donné une sépulture décente. Alors généralement les fantômes, quand on satisfait leurs demandes, ils quittent très poliment les lieux. Vous en avez d'autres, en revanche, qui s'accrochent. Alors, il y a un cas en 1324, dans la ville d'Alais, qui est près d'Avignon. Il y a un sieur Guy de Corbeau. Alors, tout ça, c'est très documenté. Hein. Vous avez beaucoup de chroniques qui rapportent les faits, qui est mort. Et puis, le soir même, il est revenu causer à sa femme. Alors, l'affaire a fait grand bruit. Vraiment, il s'impose. Et il parlait à sa femme quasiment tous les jours. Donc les frères prêcheurs du couvent de la ville ont décidé quand même de mettre le holà à cette situation qui ressemblait plus à quelque chose comme un cas de sorcellerie. Donc ils sont arrivés dans la maison en grande procession, Saint-Sacrement, ils commencent à dire les prières de l'exorcisme et puis la voix de Guy de Corbeau, leur répond et au lieu de s'enfuir, se met à dialoguer avec eux, les remercie pour les prières et puis se met à parler de l'au-delà. Et ça a duré jusqu'à Pâques de l'année suivante. Donc, il était mort en décembre et la voix s'est fait entendre jusqu'à Pâques de l'année suivante. Et puis, il faut savoir que les fantômes, dans les rapports qu'on en a, quand ils existent, ne sont jamais discrets et jamais passifs. Tant qu'ils sont là, ils font du bruit. Alors, vous avez différents types de fantômes, comme les revenants, les dames blanches, qui gardent, même si c'est flou, une apparence humaine. Et puis, vous avez d'autres types d'esprits.
Juste avant d'aller dans l'autre type, j'aimerais quand même dire que ces fantômes ne sont pas méchants. Ils peuvent être casse-pieds, indélicats, trop présents, envahissants, mais pas cruels. Ils ne viennent pas vous égorger. Hein.
En règle générale, c'est un petit peu ce qui fait la différence entre les esprits et les fantômes. Les fantômes, comme je disais, sont plutôt gentils. Une fois qu'on a satisfait à leur demande, ils quittent les lieux et on n'en entend plus parler.
Ils sont comme les vivants. Il peut y en avoir des lourds, mais bon.
Voilà. Les esprits frappeurs, eux, se manifestent d'une autre façon. Donc, on ne les voit pas, mais on entend des sons, ils peuvent déplacer des objets. Alors, esprit frappeur, c'est un terme assez récent parce qu'avant, pour les désigner, on utilisait un autre mot, poltergeist, qui vient de l'allemand et qui était composé de poltern, qui veut dire frapper, et geist, qui veut dire esprit. Et alors, il y a une personne qui a beaucoup parlé de poltergeist, c'est Martin Luther, le père du protestantisme. Ses disciples ont rapporté, dans un ouvrage du XVIe siècle qui s'appelle « Propos de table », ils ont rapporté des propos où il évoquait beaucoup de cas d'esprit frappeur, sauf que lui, plutôt que de les attribuer à un esprit désincarné, préférait les attribuer au diable.
Ah d'accord.
Alors, il y a des esprits frappeurs qui sont très célèbres. Ce sont ceux des sœurs Fox en 1848.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, qui se sont manifestés, qui ont lancé la vogue du spiritualisme et des tables parlantes. Elles n'étaient pas encore tournantes, mais elles étaient parlantes. Puis nos esprits, ont envahi l'Europe. Les tables se sont mis à valser, on s'est mis à entendre de la musique, on s'est mis à voir apparaître des ectoplasmes. Enfin, il y a eu vraiment une grande diversité de communication avec les esprits des défunts. Et il y a eu aussi une doctrine qui a été mise en forme par Allan Kardec, le spiritisme, où là, il s'agit beaucoup plus d'une doctrine de communication avec les défunts, mais derrière, vous avez tout un mouvement social, vous avez toute une structure de pensée, et c'est le spiritisme d'Allan Kardec qui a donné plus tard la religion kardéciste-spiritiste au Brésil. En fait, pour répondre à la question de Gabriel et Elliot, je m'en tirerai en citant Alexandre Dumas qui disait que les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir.
Merci Viviane Perret pour cette réponse complète. Allan Kardec a sa tombe au Père Lachaise. Beaucoup disent que c'est même la tombe la plus visitée du Père Lachaise. Et il faut lire le livre d'Hubert Radat édité chez Zulma, Théorie de la vilaine petite fille. Gentille grande fille, Marjorie de Voucou, Eliane Girard, Alice Berger, Noël Bréham. Jean-Baptiste Audibert s'est occupé de la programmation de cette émission. Avant de nous séparer, je vous invite à visiter notre site. Vous pouvez également podcaster cette émission et l'écouter quand bon vous semble. Nous nous retrouverons dimanche prochain à 19h30. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.